RCF.
Bonjour, bienvenue dans Vie de famille avec aujourd'hui un sujet inédit. C'est dit, j'arrête de fumer, je vais vaincre mon appréhension d'utiliser les transports en commun, je vais vaincre ma peur des araignées et maîtriser mes émotions. Qui n'a pas pris un jour ce type de décision ? Le hic, c'est de savoir comment la mettre en œuvre. Et à ce sujet, on entend dire que l'hypnose est une solution efficace. Comme je ne sais pas très bien ce qu'est l'hypnose et que je pense que vous avez tous envie de mieux la découvrir, j'ai invité aujourd'hui Valérie Poubelle, psychologue du travail et formatrice. Bonjour Valérie Poubelle.
Bonjour.
Alors, l'hypnose, quand on va sur Internet, on en lit pas mal de définitions. Donc je me suis dit, les auditeurs vont préférer entendre la définition de Valérie Poubelle, puisque vous pratiquez vous-même l'hypnose.
Oui, c'est ça. En cabinet, donc j'accueille des personnes et dans le cadre de la thérapie, on utilise l'hypnose qui est un processus qui permet d'accéder à des ressources internes importantes auxquelles on n'a pas accès quand on est à l'état d'éveil. Et donc ça permet de régler un certain nombre de problèmes dans sa vie.
Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'entends quand on est à l'état d'éveil, vous êtes en train de me dire que quand on vous hypnotise, on vous endort ?
Non, malgré l'étymologie de l'hypnose, le terme d'hypnose peut signifier sommeil du point de vue étymologique, mais en fait non, on n'est pas endormi. On est dans un état qui est entre un état d'éveil et un état où on va commencer à s'endormir, un peu comme on a déjà fait l'expérience quand le dimanche, on est installé dans son canapé, on va commencer à s'endormir. Quelqu'un nous parle, on est tout à fait capable de lui répondre et on sent que petit à petit, on est dans une espèce d'entre-deux. Et c'est cet état-là qui va nous permettre d'accéder à l'hypnose.
Alors, on va sûrement revenir tout à l'heure sur ces capacités inconnues que vous évoquez, mais alors, tout le monde a à l'esprit, enfin, je suppose, ces démonstrations qu'on nous fait à la télévision qui, franchement, moi, me font fuir plutôt qu'autre chose. Alors, on va y aller brut de pomme. L'hypnose, est-ce que c'est dangereux ?
Alors l'hypnose, ça n'est pas dangereux. Par contre, il est nécessaire de faire appel à des professionnels formés dans ce domaine.
Donc il faut prendre ses références, ça veut dire.
Oui, tout à fait. Il faut aller consulter des personnes qui ont d'abord à la base, si possible, une formation de soignant ou pour le moins en psychothérapie et qui ont été formées à des techniques d'hypnose dans des centres de formation ou des endroits reconnus par les professionnels du soin.
Alors quand j'entends que il faut être formé et que donc on ne s'improvise pas hypnotiseur ou eh bien ça veut dire que les gens qui s'imaginent que c'est magique est-ce que c'est vrai ça ?
Alors ça n'est pas magique, c'est ce qui peut paraître magique parfois, c'est que c'est étonnant. Il y a des effets tout à fait étonnants qui se passent et du coup ça peut donner cette impression qu'il y a quelque chose qui nous transcende. En même temps, on est plutôt sur un accès, comme je disais tout à l'heure, à des ressources personnelles qui vont permettre de régler un certain nombre de difficultés que l'on peut rencontrer.
Alors, c'est le mot « transcende » qui me fait réagir. Est-ce que c'est miraculeux ?
A priori, non.
Bon, alors, ceux qui attendent des miracles de l'hypnose. Donc, non, ça n'est pas miraculeux, mais c'est efficace.
Oui, c'est ça. C'est efficace et ça peut apporter vraiment un mieux-être et même des soulagements très importants dans certains domaines tels que la douleur, par exemple.
Et alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu méfiants, est-ce que ça peut être un type de manipulation ?
Alors, ça, souvent, on en a peur parce qu'on a tous vu des séances d'hypnose de musical.
Qu'on a évoqué tout de suite, oui.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au musical, on utilise des techniques d'hypnose qui sont avérées dans la communauté scientifique pour en faire du spectacle. Mais il faut jamais oublier que la personne qui accepte de se mettre en scène et d'être face à un public pour pouvoir être hypnotisé est déjà dans une forme d'adhésion importante.
Donc en fait, c'est pas une vraie manipulation.
Non, on peut pas être manipulé dans l'hypnose. On reste tout à fait dans la conscience de ce qui se passe et on peut à tout moment arrêter la séance.
Oui, donc en fait, si on n'est pas hypnotisé malgré soi, il faut une forme d'adhésion à cette technique.
Oui, tout à fait. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré, autrement dit.
Oui, donc ça veut dire que pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des formes de résistance, c'est n'y aller que en tout état de conscience, si j'ose ainsi m'exprimer pour le...
Oui, c'est ça. Donc il faut l'adhésion et il faut aussi, comme dans toute technique thérapeutique, être en accord avec le soignant avec lequel on travaille. Il faut qu'on ait confiance, autrement dit.
Oui.
Et cette confiance peut être nourrie en vérifiant que l'hypnothérapeute est formé convenablement à cette technique, qui est plus un processus d'ailleurs qu'une technique.
Alors, la question que je me pose, moi, ça c'est très bien, l'hypnose, donc c'est une technique avérée, etc. Mais à quoi ça sert ?
Alors, ça sert à peu près à tout, à tout ce qui peut être un mal dans l'existence en termes de douleur, par exemple. Ça, c'est plus des aspects corporels, donc des douleurs chroniques, ça marche bien là-dessus. Ça peut marcher aussi dans toutes sortes de mal-être psychique, où on peut trouver un mieux-être important en travaillant grâce à l'hypnose sur soi et sur l'accès à des ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hypnothérapeute qui permet à la personne de se connecter avec ses propres ressources.
Oui, autrement dit, c'est vraiment une aide. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser ? C'était ça ma question, quoi.
Oui, oui. D'ailleurs, le but de l'hypnose, c'est pas de, ou des hypnothérapeutes plutôt, ça n'est pas de créer une dépendance entre la personne qui cherche un mieux-être grâce à l'hypnose et l'hypnothérapeute, mais de permettre à la personne qui pratique l'hypnose avec son hypnothérapeute de pouvoir pratiquer seule et d'être ensuite dans une forme d'auto-hypnose qu'elle pourra pratiquer chez elle et dont elle pourra tirer profit.
Oui, alors, ça j'aime bien quand vous dites « dont elle pourra tirer profit » parce que c'est vraiment en but du bien de la personne. Ça, il faut quand même le souligner, on ne va pas vous hypnotiser pour vous faire faire des abominations.
Non, non, c'est pour ça qu'on peut être hypnotisé uniquement si on adhère et aussi avec des personnes qui sont formées pour ça. Et c'est toujours dans le but alors de faire du bien, de soigner, hein, d'apporter un mieux-être. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose médicale, qui va être différente dans l'intention de l'hypnose de music hall.
Ben oui, ça c'est évident. Bon, si j'ose dire, l'hypnose de music hall, c'est pour épater la galerie, quoi. Mais bon, ça a les limites du genre. J'évoquais en introduction, je vais arrêter de fumer, je vais maîtriser mes émotions, ce qui est peut-être pas forcément souhaitable d'ailleurs. Enfin, on peut en reparler de ça. Mais est-ce que vraiment l'hypnose peut m'aider à modifier des comportements que je juge indésirables ?
Oui, bien sûr, l'hypnose peut traiter par exemple les phobies, peut traiter aussi le tabac. Alors le tabac, dans les statistiques, on est entre 50% jusqu'à 80% de réussite. À 50% le taux le plus faible, hein, parce que là on est sur une addiction qui peut être un petit peu compliquée. Et puis on va pouvoir traiter du stress, traiter toutes sortes de choses grâce à l'hypnose.
Oui, ça c'est intéressant. Quand vous dites 50%, ça veut dire que vous ne mettez pas les gens dans l'illusion que je fume 2 paquets de cigarettes par jour, je vais aller voir un hypnothérapeute et c'est bon. C'est peut-être un autre sujet, mais quand même, comment se préparer, par exemple, quand on a une addiction de ce genre ou qu'on est très embêté par sa façon de vivre son stress? Comment on peut se faire aider utilement par un hypnothérapeute? Est-ce que ça demande du temps?
Alors, je pense que l'hypnose, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Pour le tabac, il me semble qu'il faut essayer parce que c'est très compliqué d'évaluer à quel niveau on est dans l'addiction. En tout cas, c'est important quand même soi-même en tant que candidat à l'hypnose, entre guillemets, on soit prêt à arrêter de fumer et qu'on considère pas que l'hypnose va être magique, justement.
Ah ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'imagine que c'est parce que j'ai pris la décision de façon extérieure, entre guillemets, mais c'est juste... une phrase, je vais arrêter de fumer et je vais voir un hypnothérapeute qui va régler le problème pour moi. Il faut vraiment que je sois prêt à m'impliquer.
Oui, tout à fait. Je pense que plus que jamais dans tout ce qui est addiction, il y a un moment opportun où on se sent prêt à être en démarche. Et là, l'hypnose peut accélérer le processus. Alors, en général, les collègues qui sont spécialisés sur le tabac parlent de 3, 4 séances, 5 séances.
Qui peuvent s'étaler sur un petit peu de temps quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça. Ça peut s'étaler sur quelques semaines ou quelques mois. Mais ça n'est pas, en effet, 100% de réussite. Ça
Bah, vous le disiez, 50%, mais pour que les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de venir à bout d'une addiction de ce type... puissent se dire « bon, il faut vraiment que je me prenne en charge moi-même et que voilà, c'est juste une aide, c'est pas quelqu'un qui fera les choses à ma place ».
C'est très exactement ça, parce que dans l'hypnose, justement, c'est ce qui est intéressant. L'hypnothérapeute va permettre à la personne d'accéder à des ressources et lui redonner la possibilité de se soigner elle-même avec ses ressources à elle. Et c'est ce qui me plaît personnellement dans l'hypnose, c'est que c'est le patient ou la personne qui veut travailler sur ce sujet qui va se prendre en charge grâce à l'hypnothérapeute et grâce au processus hypnotique.
Donc tous les amateurs de magie, de miracles et de... il suffit juste que je le dise et puis je vais trouver la bonne personne, le bon hypnothérapeute qui va me conduire à me détacher de cette addiction, à mieux gérer mon stress ou que sais-je encore. Justement, que sais-je encore? Je parlais tout à l'heure de maîtriser ses émotions. Eh bien, imaginons que je vienne à votre cabinet comme ça, avec ce type de demande, qu'est-ce que vous me répondez?
Alors, je vais déjà vous demander pourquoi vous avez besoin de maîtriser vos émotions.
Oui, ça, c'est une bonne
question. À quoi ça va vous servir?
Oui.
et aussi, après, on peut travailler rapidement. Alors, on se déconnecte assez rapidement de la partie rationnelle, hein, puisque l'hypnose passe par le corps. Donc, on ne va pas trop intellectualiser quand on travaille sur l'hypnose.
Ah,
ou avec l'hypnose.
Très
plutôt.
Bien. Alors, ça, c'est donc une technique qui échappe a priori à notre rationalité. Alors, on va voir jusqu'où. Et puis, d'autres aspects que peut nous apporter l'hypnose.
Retrouvez le programme complet de votre radio sur rcf.fr.
Vie de famille sur RCF Nord-de-France, Lorraine Lapara.
Et mon invitée Valérie Poubelle est venue nous parler de l'hypnose. Nous en avons donné un petit peu votre définition et puis certains points que l'hypnose peut traiter. Et vous disiez, juste au moment où on s'est interrompu, que l'hypnose s'adresse non pas à la rationalité, mais c'est une technique corporelle. Et moi, je parlais d'une personne qui arrive en vous demandant « je voudrais maîtriser mes émotions ». Alors, comment on fait pour gérer tout ça? Comment vous faites pour répondre à la demande? Qu'est-ce que vous dites à la personne?
Alors, d'abord, on va chercher à répondre à la question « pourquoi est-ce que cette personne souhaite maîtriser ses émotions ?»
Qu'est-ce qui
l'embarrasse dans sa vie? Pour bien sûr comprendre un petit peu le panorama de ce qui pose problème. Et très vite, on va se mettre en processus hypnotique pour pouvoir accéder à des ressources, sachant que l'hypnose permet de débrancher l'aspect rationnel des choses. C'est pour ça qu'on va pas passer énormément de temps à essayer de comprendre les symptômes.
Ouais.
Mais on va plutôt passer du temps à essayer de se connecter au corps. Donc
ouais.
L'hypnose, c'est un processus qui va passer par le corps, parce que le corps, lui, ne ment jamais, et il possède en lui ses propres réponses.
Ah oui, alors,
C'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que la personne doit déjà préciser quelle est sa demande. Parce que quand je vous disais « je veux maîtriser mes émotions », je pensais à une personne qui dit « moi c'est terrible, je me laisse toujours submerger par mes émotions ». Alors est-ce qu'effectivement maîtriser, là ça veut juste dire pouvoir prendre suffisamment de recul et justement connecter dans mon corps ce qu'il se passe pour... C'est ça, je vous
tout
vois opiner du chef, là.
C'est ça.
Aidez-moi à mettre des mots, parce que je...
Oui, il s'agit d'aller voir dans le corps ce que représentent ces émotions, comment ça se passe, et de travailler avec cette énergie. Parce que finalement, les émotions, c'est une énergie. Et on va repérer grâce à ce qui se passe pour la personne. Donc, c'est vraiment complètement dépendant de l'individu. Comment ces émotions se matérialisent dans son corps, comment est-ce qu'elle ressent les choses. Et on va utiliser la matière justement qui vient. Et c'est ce qui est très intéressant dans l'hypnose, c'est qu'on travaille avec ce qui vient et ce qui appartient à la personne, ce qui est entre guillemets dans son corps et dans sa tête bien sûr, mais surtout ce qui est dans le corps.
Et d'une certaine façon, ça nous permet de venir à bout, enfin au moins ponctuellement, de nos résistances à parce que quand on est dans une addiction ou dans une forme de comportement, c'est parce qu'on résiste un peu au changement, qu'on a peur des bénéfices qu'on a en adoptant de perdre les bénéfices qu'on a en adoptant cette conduite, peut-être ?
Oui, c'est ça. Alors souvent, les symptômes, ça sert à quelque chose. Hein. Ça a une fonction, on parle de la fonction du symptôme. Et du coup, au lieu d'être dans la recherche de ce qui ne va pas, on va s'appuyer pour les personnes dans ce qui va bien. Et c'est donc les ressources du corps qui vont nous servir à dépasser les résistances plutôt que se focaliser sur le symptôme.
Oui, autrement dit, c'est pas une technique d'évitement, mais c'est une technique de contournement peut-être.
Tout à fait, c'est ça, on pourrait dire ça. En effet, on va abandonner la partie rationnelle pour revenir à la dimension corporelle, émotionnelle de la personne. Et on va pouvoir comme ça utiliser toutes les ressources et créer une espèce d'unité, on pourrait dire, qui permet justement, on a plein de ressources en nous qu'on a perdues hein, dans la vie en société, dans l'éducation qui, par rapport à nos ancêtres, les gens qui habitaient dans les cavernes et qui sans doute avaient pas mal de ressources en termes d'intuition, en termes d'intelligence aussi naturaliste. Et nous, ici, on va revenir à cette forme d'intelligence que l'on a en nous et qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accéder à des ressources et de soigner ce qui ne va pas bien. On s'appuie sur ce qui va bien pour soigner ce qui ne va pas bien.
Voilà, et avec un autre type de réponse, en fait. Mais alors, vous parlez sans arrêt d'accéder à des ressources. Alors, j'imagine un homme hyper performant dans son métier, dans sa vie, etc., etc., qui a des capacités, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, mais qui a des capacités existantes qu'il connaît, qui sont vraiment efficaces. Et puis, il aurait envie d'optimiser ça. Est-ce qu'il peut venir se dire, voilà, je voudrais que vous m'aidiez à optimiser encore ses capacités. Est-ce que c'est une demande qui est valable ?
Là aussi, ce qui sera intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il veut remettre encore plus de contrôle dans quelque chose qu'il contrôle déjà et quel sera l'intérêt pour ça. S'il est déjà performant dans ce domaine, on cherche pas la performance dans l'hypnose, on n'est pas dans le contrôle, on est dans très exactement l'inverse, dans une forme de lâcher prise pour pouvoir justement se réaligner dans quelque chose qui nous pose problème et de retrouver un axe d'équilibre par rapport à soi-même et par rapport à son entourage, par exemple, et sa vie en général.
Donc, si je comprends bien, on a recours à l'hypnose plutôt parce qu'il y a quelque chose qui est en souffrance chez nous et non pas quelque chose qui va déjà bien, sur lequel je peux m'appuyer tout à fait sans avoir recours à l'hypnose en fait.
Oui, c'est quelque chose qui peut... Alors, si on est dans la performance, on pourrait dire, pourquoi rechercher encore de la performance? En tout cas, c'est pas l'hypnose qui sera la bonne réponse. Par contre, pour quelqu'un qui est toujours dans la performance, l'hypnose pourra être intéressante pour se détendre et pour apprendre à lâcher prise, justement.
Ah oui, mais les gens auxquels je pense qui sont dans la performance, le lâcher prise, c'est pas franchement leur truc. Et en fait, du coup, ça pourrait presque être justement une façon de leur présenter les choses en disant, mais ok, t'es super performante, t'es super efficace, etc., etc. Mais t'es toujours tendue comme une corde de violon. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'être aussi performant, mais de façon plus détendue.
Oui, tout à fait. Et puis, ça permettrait aussi d'économiser l'énergie.
Ah oui, mais bon, ça, en général, ces gens-là en ont à revendre. Alors, donc, ça fait appel à d'autres ressources, vous l'avez dit, des ressources auxquelles on n'a pas accès, au moins en conscience, en tout cas, en état de conscience normal, entre guillemets. J'aime pas
en
trop.
État d'éveil, oui,
ouais,
on peut dire.
C'est
ordinaire.
Ça. Et est-ce que accéder à ces ressources-là peut nous aider à mieux communiquer avec nous-mêmes et avec notre entourage?
Bien sûr, puisqu'on se retrouve mieux dans sa vie en général, on se place mieux par rapport à sa vie, et être bien placé dans sa vie, c'est être à la fois en accord avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc son environnement, on pourrait dire interne, et l'environnement externe. Donc, en effet, c'est quelque chose qui peut être de toute façon source de mieux-être à tout point de vue, et donc forcément d'être aussi mieux dans son entourage. Si on est bien dans sa vie, on a toutes les chances d'être bien dans ses relations.
Oui, autrement dit, aux personnes qui se sentent soit timides, soit qui ont l'impression de d'avoir des relations un peu limitées parce que en retrait ou etc. Donc l'hypnose est un bon mode d'accès à ce pour faciliter les relations avec les personnes.
Tout à fait, parce que quand on a des problèmes de relations comme ça, on est dans quelque chose qui peut être apparenté à la phobie sociale, donc avec des niveaux, hein, bien sûr,
oui,
on peut
oui.
être simplement un peu timide,
oui.
Sans être dans une phobie au sens médical du terme, mais ça permet d'avoir plus de fluidité dans ses relations et de fluidité avec soi-même et son environnement.
Alors, moi, ma question, c'est, on parlait là des gens hyper performants, etc., ou des gens extrêmement timides, ou des hyper mentaux. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé?
Alors, dans les statistiques, il est dit dans la littérature scientifique que 10% des personnes ne peuvent pas être hypnotisées.
Alors, 10%, pourquoi?
Pour ma part, je ne souscris pas à cette statistique parce que toutes les personnes que j'ai pu accueillir ou que j'accueille, qui parfois me disent « mais moi je crois que ça marchera pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas », c'est sans prétention, mais c'est 100% de personnes qui accèdent à l'hypnose sans aucun problème, y compris celles qui sont très dans le contrôle.
Donc ça fonctionne bien et je sais pas pourquoi je pensais à une personne qui me disait c'est épouvantable, je ne dors jamais ou 2 heures par nuit, etc. Et je lui ai dit mais j'ai entendu dire que l'hypnose était efficace là-dedans et elle est persuadée que ça n'a pas marché. Je peux lui dire que si elle peut y aller.
L'hypnose, ça marche très très bien sur les problématiques de sommeil. En effet, on a des résultats très intéressants.
Alors, en début d'émission, vous nous avez dit que l'hypnose, ça devait être pratiqué par des gens qui avaient passé des diplômes auprès d'organismes
reconnus,
etc., etc. Alors, j'entends bien que c'est la condition nécessaire, mais est-ce la condition suffisante? Que faut-il pour être un bon hypnothérapeute, entre guillemets, si tant est que ça existe? Enfin, je vais dire par là, est-ce qu'il y en a des bons, des moins bons? Est-ce que c'est, comme pour tout thérapeute, une question aussi un peu de personne? Voilà, je sais pas, je vous laisse le champ libre là-dessus.
Alors oui, en effet, c'est comme pour n'importe quel soin. Il faut que le thérapeute soit formé, il faut qu'il ait envie de soigner, il faut qu'il soit engagé. Le niveau d'engagement dans toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient, et particulièrement dans le soin, c'est important. Après, il est important aussi de vérifier qu'on a une bonne relation avec son hypnothérapeute, mais ça, c'est valable avec n'importe quel psychothérapeute ou thérapeute. Donc, c'est important de ressentir si on est en phase, parce que ça va être quelque chose, un moment pour soi, où on va être dans l'adhésion, donc on aura plus facilement de l'adhésion si on a confiance dans son hypnothérapeute ou dans son thérapeute en général.
Voilà, et si je vous dis, qu'est-ce qui fait un bon hypnothérapeute vu de votre fenêtre? Est-ce qu'il y a vraiment une définition pour ça ou non?
C'est la définition du bon professionnel. Qu'est-ce qu'un bon professionnel? C'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas dans le soin, apporter un mieux-être, qui est engagé et qui, pour moi, est formé
à
l'écoute.
On en revient là. Maintenant, vous savez que nous, Français, nous sommes assez forts des... Hein, je pense donc je suis rationaliste, etc., etc. Et vous avez parlé plusieurs fois de vérification scientifique. Donc, on va peut-être pouvoir conclure là-dessus. L'hypnose, c'est pas juste un truc de fantaisie et ça s'appuie sur des bases scientifiques.
Oui, c'est ça. Il y a des recherches qui sont menées par des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychiatres, toutes sortes de personnels et professionnels du soin.
Y compris des médecins.
C'est... Y compris des médecins, donc qui sont aussi, bien sûr, médecins généralistes, anesthésistes, médecins psychiatres, bien sûr. On a toutes sortes de personnes professionnelles du soin donc qui s'intéressent à ce processus parce que on a de beaux résultats et de belles performances. Si on parlait de performances tout à l'heure, même si c'est pas ce qu'on cherche, on cherche surtout à améliorer la vie et l'état du sujet ou du patient.
Eh bien, je vous remercie Valérie Poubelle d'être venue nous parler de l'hypnose à laquelle nous pouvons avoir recours avec un hypnothérapeute de confiance. Merci Valérie Poubelle, merci aux auditeurs et merci à David Maffroy qui a assuré la technique de cette émission.
Merci.